Radio Foot International,
Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce mardi pour un nouveau numéro de Radio Foot International. Notre voyage débutera par l'Italie, la Juventus Turin qui file la Dolce Vita en championnat. L'AC Milan de son côté patine avec son nouveau coach, le portugais Paulo Fonseca. Un point en deux matchs et déjà des questions autour de sa capacité à entraîner une grande équipe européenne. Paulo Fonseca, l'ancien entraîneur de Lille, eh bien, il fait parfaitement le lien avec la Ligue 1, où le Paris Saint-Germain a déroulé ce week-end à domicile contre Montpellier une victoire 6-0 et une impressionnante force collective dégagée par les joueurs de Luis Enrique. Sommes-nous en train d'assister à l'avènement du projet de l'entraîneur espagnol à Paris? C'est la grande question du jour et on tentera d'y répondre avec trois grands spécialistes qui m'accompagnent aujourd'hui. Dominique Sebrac, bonjour.
Bonjour Sofiane.
Comment ça
bonjour
va?
Bonjour à tous, ça va et vous?
Bah moi ça va super, un beau programme. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Sofiane, bonjour à tous.
Des choses à dire?
Bah, de toute façon, même quand il n'y a rien à dire, on a toujours des choses à dire.
Ça, c'est le propre des consultants, toujours là. Hervé Pono pour finir, comment ça
mais
va?
Mais bonjour, mais quel plaisir d'être en votre compagnie. Oh, oui, j'ai plein de choses à dire.
Ah, parfait.
C'est certainement différent de mes amis.
On pourrait déjà vous raconter la chemise d'Hervé Pono. Ça pourrait nous tenir un quart d'heure d'émission.
Ah, elle est pas mal, le petit blanc qui s'habille
plutôt
bien.
On est au musée.
Mais c'est ça, une œuvre d'art.
Chacun y verra ce qu'il veut.
Hervé Penaud, l'œuvre d'art de Radio Foot International. Le PSG tout en haut, l'AS Monaco en embuscade et l'OM dans tout ça, on va en parler. L'Olympique de Marseille, eh bien l'OM, ça fait le spectacle. Positif, négatif, on en parlera un petit peu plus tard et on terminera cette émission en évoquant Lille qui dispute demain soir un barrage retour de Ligue des Champions en République Tchèque face au Slavia Prague. Un beau programme, on n'a pas de temps à perdre. Radio Foot International, c'est parti. Des débuts délicats pour le Milan AC en Serie A. Le club de Lombardie s'est incliné ce week-end face à un promu Parme sur le score de 2-1. Les cadres étaient pourtant tous présents. Raphaël Léao, le portugais, Théo Hernandez ou Mike Maignan, les Français. Mike Maignan, le gardien dans les cages milanaises. Seul grand changement cet été finalement, l'arrivée sur le banc du portugais Paulo Fonseca. En deux matchs, Milan n'a pris qu'un point. Fonseca est déjà critiqué. On va écouter l'entraîneur portugais analyser cette défaite face à Parme.
Je suis triste pour les supporters qui étaient nombreux à se déplacer à Parme. Ils méritaient une autre prestation de leur équipe. Je suis le premier responsable des résultats de mes joueurs. J'assume mes responsabilités et je ne veux pas m'en cacher. Je ne m'explique pas notre attitude défensive d'un point de vue individuel et collectif. On ne peut pas se permettre de laisser l'adversaire avoir autant d'occasions et on ne doit pas encaisser un but aussi tôt sur la première occasion adverse. Pour moi, c'est clair, le problème est avant tout défensif, parce que les attaquants ont des situations très favorables.
La squadra cria, abbiamo avuto tante opportunità, il problema è defensivamente.
Ouais, déjà des mots de tête pour l'entraîneur Paulo Fonseca qui vient de débarquer au Milan AC. Messieurs, vous connaissez bien Paulo Fonseca, on l'a vu dernièrement dans le championnat de France avec le LOSC. On va raconter rapidement comment il joue. Fonseca, c'est un entraîneur plutôt offensif. Un bloc assez haut, beaucoup de pressing, un jeu qui séduit normalement les supporters. Et là, bizarrement, c'est tout l'inverse qui se passe à Milan. Comment on peut expliquer ce paradoxe entre ce qui se passait en Ligue 1 et ce qui se passe en Serie A? Est-ce que le step, la marche est trop haut, Dominique?
Bon, déjà, il faut un peu de temps pour reconstruire une équipe. Quand un entraîneur arrive, il faut vraiment installer ses idées, qu'elles soient diffusées auprès de ses joueurs. On va parler du Paris Saint-Germain. Les premiers matchs de Luis Enrique, les dernières, il ne se passait rien. On devait annoncer le Barça, la possession. Rien du tout. Donc là, il faut attendre un petit peu. On est dans des... Mbappé est très critiqué en Espagne. L'Espagne, l'Italie, c'est deux pays où si vous n'avez pas de résultat au bout de deux journées, tout le monde dit que c'est nul.
Et surtout
c'est...
au Milan, qui est un grand club européen.
Donc il ne fallait pas le prendre. Pierre, comment il s'appelait Pioli. Il était aussi Pioli. Très critiqué au début, au milieu, à la fin. Sinon, il l'aurait gardé. Donc il y a juste un peu de temps. Voilà, je pense que Fonseca est un super entraîneur qui a une très bonne cote en Europe. Je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas à Milan. Pas forcément pour être champion de Serie A tout de suite, mais ça, il va redresser la barre, je crois. Hein.
En tout cas, Nabil, les supporters milanais, pour l'instant, ne sont pas satisfaits du tout.
Non, ils ne sont pas satisfaits, mais comme l'a dit à juste titre Dominique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impatience, d'attente. Il y a plus un nouveau coach que de nouveaux joueurs, vous l'avez bien signalé. Et forcément, le travail d'un coach, c'est sur un cycle. Après, il y a aussi des situations individuelles très disparates. Je vous ai entendu citer des noms de joueurs, de cadres. Mais je pense qu'avant de pouvoir commencer un peu à se projeter, il va falloir attendre la fin du mercato du côté du Milan AC.
Je voulais y venir juste après.
Savoir
mais
sur qui réellement compter, avec un compté par Antonio, un Naples, un chaud courant. Ils peuvent prendre Osimhen, d'ailleurs, les sur le marché, si ça les intéresse, ça leur ferait
ça
pas
coûte
de mal.
Ça coûte un peu cher, quand même. Mais...
Bah, un peu cher, quand on voit
qu'il... Il y a des rabais en ce moment pour Osimhen.
Ouais, un Léo Osimhen, ça peut matcher techniquement, en tout cas. Et puis, il y a des joueurs, comme Bennacer, par exemple, qui est important, qui va peut-être partir en Arabie Saoudite. Léo, qui avait peut-être d'autres envies. Giroud, qui est parti. Et puis, vous connaissez mieux que moi Paulo Fonseca, parce que vous êtes un grand admirateur du LOSC. Fonseca... c'est toujours du plaisir à regarder, mais c'est aussi de la frustration.
Ah oui.
Parce qu'il met toujours, il a eu des difficultés partout où il est passé à trouver le bon équilibre. Alors là, il vous dit c'est défensif, mais il paye un peu aussi ses choix de jeu. Mais au final, quand vous êtes spectateur, bon, bah, si vous mettez 3 buts et qu'ils en mettent 2 et que vous prenez 3 points, ça va. Mais ce qui se passe souvent avec lui, c'est plutôt vous menez 1-0, vous tuez pas le match et vous vous faites reprendre, voire vous vous faites plier dans le temps additionnel, parfois alors que vous avez proposé le meilleur contenu. Donc, je pense qu'il faut attendre, tout simplement. Voilà.
Hervé,
j'ai fait 2 minutes pour vous dire qu'il faut attendre.
Hervé, c'est ça le problème. On connaît le jeu de Fonseca, du mal à tuer les matchs. Mais à Lille, ça peut passer. Hein, un club qui joue le top 5 dans un championnat de France. Mais là, en Milan, un grand club européen qui est censé jouer le titre chaque année, va falloir quand même gagner rapidement.
Ah, très vite, hein, parce que alors je ne vais pas répéter hein, ce qu'ont dit mes éminents collègues et amis, hein, évidemment qu'il faut du temps. Maintenant, on n'en peut plus parce que les entraîneurs sont jugés après 1-2 matchs comme les joueurs, ce qui n'a absolument aucun sens. Si lui veut mettre son système en place, à Lille, il a mis, allez, je vais dire 2 ans avant de vraiment permettre à ses joueurs de maîtriser ce qu'ils voulaient véritablement. C'est que l'année dernière, il a dit « Ah, enfin, j'ai l'équipe qui me correspond. » Savoir exactement quand presser, savoir exactement quand attaquer. Le problème de Lille, c'est qu'il a manqué d'attaquants. Ce n'est pas le cas, évidemment, du côté de Milan, où il y a vraiment des joueurs capables de faire des différences. Bah, donc, il va falloir qu'ils s'y mettent. Mais le problème, parce qu'on va venir quand même à sa personne en tant que telle, c'est qu'il est déjà passé en Italie. Et il n'a pas une cote énorme là-bas. Et d'ailleurs, quand il a été annoncé en Italie à l'époque au Milan, qu'est-ce qui s'est passé? Les supporters se sont révoltés. Oui. Il y a même eu des banderoles. On ne veut pas de ce Fonseca, bon, il est nul, etc., etc. Donc ça veut dire que vous perdez un premier match. Vous avez fait un match nul. Rappelons-nous quand même que le premier match, c'est un match nul en revenant du diable Vauvert. Hein, 2 buts en fin de match. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui n'en voulaient pas, ils en veulent encore moins. Et là, c'est beaucoup plus difficile de ramer à contre-courant. Donc, ce qu'il va falloir qu'il fasse aujourd'hui, c'est évidemment gagner le plus vite possible. Même mal, même mochement, mais gagner. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, il va être assez vite sur un siège éjectable.
Bon, il a un bel effectif, en tout cas. Ça, vous l'avez dit, messieurs, au Milan AC. Peut-être juste parler de l'attaquant de pointe, puisqu'on voit...
Okafor.
Là, c'était Okafor, en l'occurrence, ouais. Mais ils ont recruté Alvaro Morata, qui est blessé pendant...
Vous voulez dire Okafor, faible, pendant...
Bon, Alvaro Morata, c'est une valeur sûre, quand même.
Mais qui est blessé pendant un mois. Est-ce qu'il y a un problème à ce poste en particulier, bah non, puisque c'est offensivement que ça pêche un petit
c'est
peu...
C'est aller à haut d'en faire un peu plus. Il y a un joueur... Non, mais honnêtement, il y a un joueur de classe mondiale qui est d'une insolence balle au pied qui est incroyable.
Et qui est inconstant aussi.
Oui, ouais, il est très inconstant.
Oui, mais c'est à lui. Oui,
c'est aussi pour ça qu'il est encore au Milan aujourd'hui. Tout, et qu'il
oui,
n'a
non,
pas...
non, mais... Mais
avec tout le respect qu'on doit au Milan.
Enfin, il a eu aussi des séquences où il a marché sur le championnat d'Italie bien en sûr. Étant absolument fantastique.
Mais ça remonte déjà un petit peu.
Voilà, mais c'est à lui de faire la différence et de prendre ses responsabilités et d'être le leader offensif, clairement, de cette équipe.
Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il les prenne trop non plus, parce que c'est un joueur très personnel. Il joue beaucoup pour lui-même, alors qu'en fait, tu voudrais d'un leader qui soit quelqu'un un peu, tu vois, qui sème une espèce de côté positif sur tout le monde. Et lui, il fait beaucoup de différences individuelles et moins quand même collectivement. Et ça, c'est vraiment un de ses défauts.
Après,
parce qu'il a un potentiel athlétique, de drive, de tout ce qu'on veut. Il a tout. Mais le problème, on a connu beaucoup de joueurs qui avaient tout, ou presque. Je pense là qu'il y a Ben Arfa, évidemment, qui me vient. Mais, et qui finalement n'ont pas du tout fait la carrière. Qui espèrent, attention, lui, c'est quand même un titulaire indiscutable.
Oui,
Milan, dans un grand club, c'est pas rien non plus. Hein. Mais... on attend toujours un peu plus de lui. Donc je ne sais pas s'il est capable aujourd'hui de prendre ce leadership.
Il y a Jovic qui est plus Luka Jovic qui avait été un des rares mauvais choix de Dominique. La part de Zinedine Zidane au Real Madrid à l'époque pour 60 millions d'euros.
Morata, on l'a vu à l'Euro, hein, c'est un joueur fantastique, mais ce n'est pas forcément un buteur. Donc Nabil parlait d'Osimhen. S'ils ont un peu d'argent, puisque j'entends dire
c'est
que c'est maintenant...
Un peu, là. C'est 110 millions d'euros.
J'ai entendu plutôt que c'était moitié prix maintenant. On était plutôt dans les...
C'est les soldes
les 65
au Napoli.
65 millions d'euros. C'est Napoli...
Ça m'étonne.
Ça m'étonne un peu.
J'ai vu passer ça.
Ça soit 65, 110, 130.
J'ai pas vu. Non, parce que là, dans ces cas-là, d'ici vendredi, c'est 10 millions. Voire, on vous donne de l'argent pour prendre Osimhen.
Non, je crois pas.
Là, si c'est la moitié prix, il y a tous les clubs anglais qui vont venir. Parce qu'à 60 millions d'euros, il peut
pas dire... 80 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly va accepter 65 pour Osimhen.
Je trouve que Giroud, on aime ou on n'aime pas, mais il faisait le taf quand même. Il mettait sa quinzaine de buts par an, il mettait les pénaltys, tout ça. Donc je trouve qu'il va manquer un petit peu une gâchette.
Il y a Jovic sur le banc.
Y crois, toi?
Bon, il reste
demande à voir.
Enfin, il reste 2 jours et demi de mercato.
On va laisser dans sa carrière.
On va laisser le temps au Milan et on va laisser surtout le temps à Paolo Fonseca de s'adapter.
Il y a Memphis Depay qui est toujours sur le marché.
Bien sûr, pourquoi pas. Ça pourrait être une
Slimani,
une opportunité.
L'international algérien.
Et une autre opportunité pour le Milan.
Ah là, autant.
Messieurs, un autre entraîneur. Entraîneur qui, lui, à l'inverse, ça fonctionne très très bien. On va parler de la Juventus Turin très rapidement, qui est leader de Serie A après sa victoire 3-0 sur la pelouse du Hellas Vérone. La Juve entraînée par Thiago Motta, qu'on a souvent vu sur les pelouses du Paris Saint-Germain en tant que milieu de terrain. C'était il n'y a pas très longtemps, finalement. Ouais. Il a fait son adaptation express. Il entraîne déjà un grand club en Europe. Alors, une Juve méconnaissable. Hein. C'est vrai qu'on se souvenait de la Juve d'Allegri qui pouvait être très pragmatique dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. C'était pas très beau à voir jouer. Là, on a l'impression d'avoir une équipe totalement à l'inverse, très offensive, très,
c'est
très belle.
C'est le contraire de ce que disait Hervé. Là, Thiago Motta, il a une cote incroyable en Italie. Ce qu'il a fait à la Spezia, ce qu'il a fait à Bologne.
Il surfe sur ça.
Il s'est nourri. Il a appris en commençant un peu par le bas. D'abord, les jeunes au PSG, la Youth League, les U19. Déjà, il était très apprécié. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo voulaient qu'il soit entraîneur principal du Paris Saint-Germain. Et puis, il s'est fait la main dans ces petits clubs-là. Et donc, c'est le contraire. Il arrive avec une espèce d'aura dans un club qu'il connaît très bien. Et il a toujours eu... c'était un milieu défensif, mais il a quand même toujours eu des idées offensives. Il a toujours été marqué par ce logiciel-là. Et donc, je ne suis pas surpris. En plus, il arrive après des moments ternes d'Allegri.
C'est ça.
C'est, entre guillemets, c'est facile de redonner de la joie à une équipe qui tirait la gueule, quoi.
Au début, c'est impressionnant. Toujours... C'est quand même ses résultats. Avec qu'on voit sur le papier l'équipe, c'est quand même des enfants.
Même le mercato, c'est plus des opportunités que des réels coups.
Il a fait jouer des joueurs que personne ne connaissait. J'exagère, mais disons que ce n'est pas des joueurs... on se dit pas, tiens, ça y est, on est en train de prendre des grands d'Europe. Il y a beaucoup de joueurs jeunes. La première journée, il avait fait jouer le gars milieu gauche, plus même Wea, qui est titulaire d'entrée. Wea qui n'avait pas non plus marqué son époque à Lille. Et donc c'est vraiment, il a fait quelque chose. Alors attention, il a rencontré des adversaires qui étaient un peu dans les cordes de la Juve, mais n'empêche que lui, tu as raison, c'est l'anti-Paolo Fonseca. C'est-à-dire qu'il vient avec la cote et en plus, il y a les résultats d'entrée. Donc là, ça ajoute un petit peu à l'aura que vous pouvez entretenir.
Et il y avait un mot rapide sur Thiago.
Non, mais je suis d'accord avec
Thiago.
Thiago Motta, je crois que tout a été dit, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est plus la puissance aujourd'hui de la Juventus. Qui vit autant le Barça, le départ de Neymar a été un crash avec une contre-offensive qui a été ratée, autant le changement de logiciel avec Ronaldo laisse encore des traces aujourd'hui économiquement du côté de la Juve. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Hervé, quand tu regardes de l'extérieur l'effectif de la Juve, tu débarques et quand tu sais ce qu'a été la Juve, t'as l'impression que c'est l'effectif d'Udinese il y a 10 ans. Je dis pas qu'ils sont pas bons, qu'ils vont pas dire. Mais en fait, on est. Alors, quelque part, peut-être qu'ils reconnectent avec ce qu'ils ont été. Acheter des joueurs qui vont devenir des stars, les meilleurs joueurs en Italie, qui ensuite.
Pensez à Dybala à l'époque, quand ils avaient recruté.
Pirlo, tous ceux qui sont passés qu'on connaît. Mais là, ils ont pris Kopmeyers, ils ont pris Gonzalez, et ils ont pris aussi très intéressant, que j'ai bien aimé à l'Euro, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le fils de Sergio Conceição, qui est un ailier de débordement, qui fait des différences brutales.
Il va très vite, il est limité. Mais on est sur des opportunités de mercato plus que sur des gros coups.
On est plus sur un modèle rationnel, ou comme un peu au Paris Saint-Germain, c'est le travail de l'entraîneur qui va faire la différence.
Mais là, Adrien Rabiot n'a pas été renouvelé.
Là, on est à la Rabiot, mais. Alors, moi, je ne l'ai pas vu à la télé non plus.
Messieurs, je coupe court.
Parce que
mais il
n'y
a plus d'argent à la Juve.
Thiago Motta, on en parlait, grand entraîneur en devenir. Ouais. Hervé, vous lui direz
quelque
chose.
Oui, parce qu'il y avait un truc qui m'avait marqué chez Thiago Motta, avant même qu'il soit entraîneur. On avait fait une interview dans l'équipe et il expliquait ses principes de jeu. Et donc, c'est quelqu'un qui a effectivement une vision très offensive du football. Et il disait notamment, c'est pour ça que ça m'avait marqué, parce que je dis c'est finalement le prolongement un peu de Guardiola, c'est que Guardiola, Guardiola avait décidé que le gardien serait le premier joueur d'une équipe où il y aurait 11 joueurs de football,
un joueur de
et
champ.
Non pas 10 plus 1. Et lui, il pensait que peut-être, dans le football moderne, pour arriver à créer des déséquilibres, il va falloir amener le gardien beaucoup plus haut. C'est-à-dire que le gardien pourrait être quasiment au milieu de terrain, monter quasiment jusqu'au milieu pour rajouter une personne supplémentaire. Alors, je ne sais pas quel niveau derrière, pour avoir une personne supplémentaire, pour créer des décalages supplémentaires. Et c'est peut-être ça qui sera la différence plus tard dans le football moderne. Ça paraissait très ambitieux. C'est de voir le faire.
C'est utopique. Il y a bien qui court vite aussi.
En tout cas, Thiago Motta, un jeune entraîneur en devenir, un grand joueur. On se rappelle de son époque au Paris Saint-Germain. Et ça tombe bien, on va évoquer, messieurs, la Ligue 1.
Bravo.
Les Parisiens avaient piqué d'entrée les Havrais la semaine passée lors de l'entame du championnat. Ont-ils démarré aussi fort ce soir, les hommes de Luis Enrique ?
This is where we hold the... This is where we fight. This is where they die.
Marco Lacchi attaque dans la surface. Le poteau pour l'aider. La vitesse pour faire la différence. Marco là, brillant.
Marco là, avec Jean Neves, la magnifique remise. Le collectif parisien et l'individualité à cette fois à l'arrivée. Paris régale et Paris marque.
Centre de Nuno Mendes au second poteau. Le sourire est éloquent. Il prend du plaisir et tout le parc en prend avec lui. Hakimi buteur, 4-0. Et c'est une soirée où ça passe et c'est une soirée où ça marque. 6-0 pour Paris face à Montpellier.
Collectivement, techniquement, très très fort.
6-0, c'est vraiment pas tous les jours que l'on voit ce genre de score. Les Parisiens se sont amusés à domicile contre
Tiens,
Montpellier.
Une...
ouais, dans un autre sport. Ouais.
Et vous connaissez l'expression, il n'y avait rien en face.
Une victoire. vous êtes dur, mon cher Nabil. Une victoire totale, en tout cas, des Parisiens, des joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu. 10 buts marqués déjà en deux matchs et surtout une fascinante facilité collective assez inhabituelle dernièrement du côté du club de la capitale. Dominique Serra, je vais me tourner vers vous directement.
Une belle
Est-ce
idée.
Qu'on est Oui. Je cerne plutôt bien les personnages.
Et puis après, pour l'analyse, ce sera avec nous. Là, c'est pour le commentaire, un peu super.
Entrée plat dessert, voilà. J'ai bien compris. Dominique, est-ce qu'on est... Je le fais de manière très solennelle. Est-ce qu'on est à l'avènement, là, fin août, début septembre 2024, d'un PSG 100% Luis Enrique?
C'est un peu tôt encore pour dire tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait un an qu'il est là et qu'il y avait eu 11 recrues. Là, on est à 3 si on enlève le gardien russe qui est la doublure de Donnarumma. Il y a eu 3 joueurs de champ pour l'instant. Bon, il y aura peut-être un autre qui va arriver d'ici la fin de semaine, mais ça sera plus une doublure, un latéral ou un défenseur central. Donc, vous avez 3 recrues. C'est quand même pas... c'est un par ligne quasiment. C'est pas du tout la même dimension que 11 recrues qu'il faut apprendre à faire jouer ensemble avec Mbappé qui est lofté, qu'il faut réintégrer quand même parce qu'il se fâche avec le président, mais il se fâche plus avec le président. Bon, on comprenait plus rien. Là, c'est beaucoup plus cohérent. Le mercato a été fait avec lui. Campos, le directeur sportif, a fait le mercato avec lui. Alors que l'année dernière, il avait subi quelques joueurs comme Manuel Ugarte, qui avait fait un bon début de saison, mais qui colle pas vraiment à sa philosophie. Jeu. Là, par exemple, le petit Neves, João Neves, qui vient de Benfica, c'est typiquement le prototype de joueur, 1m74, qui joue au sol, très bon techniquement. Ouais. C'est ce genre de joueur-là qu'il adore. Est-ce que c'est l'avènement déjà de la patte 100% Luis Enrique? Bah, disons qu'elle est plus affirmée que la saison dernière. Mais ça va être dur. Ils ont déjà un blessé, donc devant, ils ont un peu moins de solutions.
Oui, contre Salo Ramos,
la Ligue des Champions n'est pas arrivée. On va se calmer. Ils ont mis 10 buts au Havre et à Montpellier. C'était notamment un deuxième match super. On va se calmer.
Collectivement, Nabil, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe parisienne autant se trouver sur le terrain aussi facilement, en tout cas.
Oui, bah, il avait déjà mis ses idées un petit peu en place la saison dernière, en dépit de la toxicité de certaines... situation, il venait de débarquer, il y avait aussi Luis Campos qui était là, donc il fallait aussi se caler au niveau des profils de joueurs qui étaient souhaités ou pas. Par exemple, Colomoigny n'en voulait pas l'année dernière. Bon, bah, c'est Nasser qui l'a fait venir, bon, il fait avec, on voit bien que c'est pas un titulaire en puissance. Mais la seule question que je me pose, évidemment, bah, qu'on voit son travail et qu'on le verra, c'est est-ce que le collectif, qui sera bien meilleur que certains collectifs qu'il y a eu par le passé, compensera suffisamment le départ de joueurs extraterrestres.
Bah, vous me faites les questions ensuite, Nabil. Mais
c'est ça la question. C'est-à-dire, c'est à quel...
On va tenter d'y répondre.
Jusqu'à quelle altitude tu peux monter sans manquer d'air? en ayant tout un process qui est parfaitement
mais même avec tes superstars, David, t'as pas gagné avec des champions ou t'es allé en demi-finale l'année dernière, t'es allé trois ans de suite en huitième de finale.
T'as fait une finale sur Neymar quand même qui a porté l'équipe.
Mais les superstars avec Ibrahimovic, on parlait du conseiller de l'AC Milan, avec Ibrahimovic, avec Cavani, avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi, c'est une finale de Final Eight dans un format différent parce qu'il y avait le Covid, et c'est une demi-finale l'année dernière et une demi-finale contre City. Donc tu vois, c'est pas non plus l'altitude que tu dis, il risque de manquer d'oxygène à un moment donné. Bah,
non, je sais pas. Pose la question. L'oxygène. Peut-être que ça
l'oxygène
sera pas
atteint les sommets. Vous voulez dire
il faut quand même des talents supérieurs.
Mais on va y venir un peu plus tard. Est-ce qu'on les a pas
dans
ces talents?
Tu es allé en finale avec Füllkrug.
Avec un collectif.
Il me semble.
Hervé, la question est simple. Est-ce qu'avec ce collectif, peut-il surpasser les individualités qu'on met tellement en avant dans ce foot moderne?
Ce que dit Dominique est très juste, en fait. Et je comprenais le raisonnement quand j'écoutais Nabil, mais il y a eu un plafond de verre aussi. Et ce plafond de verre, en gros, c'est la demi-finale. Il y a eu une finale, effectivement. Mais sinon, en gros, c'est demi-finale. Et est-ce qu'avec cette équipe-là, vous pouvez aller en demi-finale de Ligue des Champions? Alors déjà, ça dépend parfois du tirage au sort.
Du parcours.
Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tout
est là. Des plateformes des autres équipes.
On ne sait pas exactement. Après, on verra un petit peu quels seront les effectifs aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'en s'appuyant sur un collectif qui fonctionne, vous pouvez avoir des résultats. Dortmund l'a montré. Dortmund a quand même éliminé aussi quelques grosses équipes. En général, aujourd'hui, pourquoi on reste dans quand même des grosses équipes qui gagnent? Parce que ce sont des grosses équipes qui jouent collectivement aussi. Oui. C'est-à-dire, quand vous avez Manchester City, c'est une équipe qui joue collectivement. Donc, logiquement, entre la qualité de joueur plus le collectif.
Le Real défendait comme un chien l'année dernière.
Les Reals, collectivement, défensivement, mais ça fait des années, on sait à peu près ce que ça donne. Et vous avez Bayern Munich, logiquement, était aussi une équipe qui, collectivement, avait un côté un peu machine de guerre. Donc Liverpool, ça veut dire que vous avez des. Alors Dortmund, il y a peut-être moins d'individualité.
Liverpool était de la même manière. Mais
les grosses équipes avec des individualités et en jouant collectivement. Donc c'est vrai que moi, j'ai la sensation que pour remporter la Ligue des Champions, attention, pour aller en demi ou en quart ou ce qu'ils ont fait précédemment, peut-être que ça peut vous suffire. Mais je crois toujours que vous savez, les joueurs majeurs, les joueurs clés qui font les différences. Mais pourquoi pas Vitinha? Peut-être qu'il va devenir un grand joueur. Ça, on n'en sait rien. Peut-être que justement, lui va affronter Enrique.
Barcola peut complètement exploser.
Barcola peut exploser.
On verra quand ils seront testés.
Voilà, exactement. Attention, parce que Barcola, je vois toute la hype autour de Barcola. C'est un joueur, il y a un an et demi. Les mecs voulaient l'envoyer en Suisse quand même.
Oui.
C'est-à-dire grâce au départ de Toko Ekambi, il peut le dire parce qu'il est resté à Lyon. Sinon, il ne serait pas resté à Lyon. Il serait allé en Suisse. Mais vous savez pas une carrière, ce qui se passe. Les autres l'auraient peut-être pas vu aussi bon que ça.
Mais disons que ça a l'air plus cohérent que les années précédentes.
Complètement. 100% d'accord.
Que Désiré Doué, qui est pas encore intégré dans ce collectif, il affiche de belles promesses. Que Luis Enrique, il a la main, il a l'air content qu'il n'y ait pas de star, parce qu'on a l'impression que quand il y a des stars, il n'aime pas trop ça. On sent que ça marche main dans la main entre le directeur sportif et l'entraîneur. Moi, j'ai connu des batailles Tourelle, Leonardo, Antero Henrique, Tourelle. Donc là,
l'impression que c'est le premier projet collectif qu'on voit du Paris Saint-Germain, avec un entraîneur qui a la main sur ses joueurs.
Laurent Blanc, quoi.
Ça peut ne pas marcher, mais je trouve qu'au moins, ils seront donnés les moyens de faire du foot. L'argent a été dépensé de manière un peu pensée.
Ils se sont donné les moyens parce qu'ils n'ont pas pu conserver Kylian Mbappé, il ne faut pas l'oublier.
Hein. Oui,
c'est parce que Kylian Mbappé est parti.
Mais ils ont quand même l'avènement, messieurs, d'un nouveau projet. Quelques joueurs qui sortent du lot. Vous parliez de Bradley Barcola qui a fait un super match contre Montpellier. On va écouter le joueur français qui a analysé son début de saison avec le Paris Saint-Germain.
Je pense que je me suis un peu plus libéré depuis l'Euro. C'est vrai que j'ai pris conscience que je pouvais faire des différences. Donc maintenant, je joue libre, j'ai la confiance de mes partenaires. Du coach, donc je suis bien.
Bradley Barcola libéré. on va revenir sur le terme, l'usage de ce mot libéré.
Non, mais son défaut, la saison dernière, il commence à être titulaire à partir de décembre. Enrique le met à gauche, il décale Mbappé dans l'axe parce qu'il n'est pas content de Gonzalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Il garde Ousmane Dembélé à droite. Et le petit défaut, le gros défaut de Bradley Barcola, c'est qu'il crée des espaces, il est bon passeur, mais il ne marque pas. Il a un problème de finition, il n'est pas. Puis en même temps, on attend ça de Kylian Mbappé. Donc les autres se cachent un peu quand il y a Kylian Mbappé dans votre équipe. Vous savez que le jeu, à la fin, il faut que ça soit le dernier ballon pour Kylian Mbappé. Là, sans Kylian Mbappé, il a déjà marqué 3 buts alors qu'il en avait marqué 5 la saison dernière. Donc, si vous voulez, en 2 jours, il a joué 20 minutes au Havre et 62 minutes contre Montpellier. Alors, s'il marque déjà 3 buts alors qu'il en a marqué 5 sur l'ensemble de la saison, je me dis, ça peut devenir incroyable. Si Ousmane Dembélé en fait un peu plus lui aussi, et si le faux neuf, parce que pour l'instant, Ramos est blessé, Asensio, Lee, un autre, Désiré Doué, on verra ce que. ce que Luis Enrique va faire. Bon, Barcola, ça peut, il peut atteindre 10-15 buts, ça commence à être sympa, ça peut le libérer effectivement. En équipe de France, il y a aussi une nouvelle donne. L'Euro a été pas forcément une très grande réussite, même si la France est allée en demi-finale. Donc, il a une carte à jouer. Coman est en instance de transfert. Ouais. Ousmane Dembélé, on ne sait pas trop s'il rentre encore dans les petits papiers de Didier Deschamps. Donc, il peut s'installer à gauche. Je vois que Mbappé joue dans l'axe au Real. Il peut mettre Mbappé dans l'axe en équipe de France, garder Ousmane Dembélé à droite, reconstituer ce trio-là qui était l'année dernière au PSG. Donc, Barcola, il a toutes les cartes à jouer pour être la star du PSG que le monde attend, pour être le nouvel allié gauche de l'équipe de France. C'est une belle saison qui s'annonce pour lui, quoi.
Il va exploser, Bradley Barcola, Nabil Djellit.
Bah, il a déjà en partie explosé, quand même, je trouve, par rapport à ce qui lui était... promis par rapport à la
l'année dernière, déjà,
voilà, c'était pas mal ce qu'il faisait. C'était pas mal. Maintenant, il va falloir, quand tu changes de statut, de dimension, que les gens changent de regard et aussi de niveau d'exigence, il va falloir gérer ce moment-là, qui est parfois délicat pour certains. Mais sa chance, c'est pas de devoir faire la décision tout seul. C'est d'être dans une équipe avec une structure où il y a un collectif, et même si tu es un peu moins bien, ce collectif peut te permettre quand même de t'en sortir, en tout cas. C'est encore une fois une belle surprise pour le football français. Ça témoigne quand même d'un réservoir infini. Quoi. Enfin,
sa chance, c'est aussi le mercato, Sofiane, parce que le PSG voulait... alors j'arrive jamais à dire son nom, l'ailier gauche de Naples.
Kvaratskhelia.
Et que si jamais Naples ouvre la porte, oui. Aujourd'hui, vous avez une concurrence de folie entre Barcola et Kvaratskhelia. Donc, c'est pas pareil. Parce qu'il arriverait avec une statue un peu plus de star, champion de l'Italie avec Naples. Oui, bon, l'affaire, c'est pas faite. Aujourd'hui, il a Désiré Doué. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas tout à fait
c'est
le même.
C'est pas le registre. Oh, même
et puis, ce n'est pas le même registre.
C'est un relayeur pour moi. Oui. Un 8 à terme.
Hervé, je voulais juste revenir sur le mot employé par Bradley Barcola. Il a expliqué qu'il était libéré. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand il dit libéré, c'est simplement sur le terrain, il se sent mieux, plus en confiance, ou avec le départ d'un certain joueur. Ancien numéro 7 du Paris Saint-Germain, ils se sont libérés.
Ouais, donc je pense pas qu'il faille aller lire dans les astres Mbappiens pour trouver une référence. Non, je crois que simplement, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'effectivement, il a fait un euro inattendu, hein, parce que personne ne s'attendait à le voir à ce niveau-là. Mmh. Que pour beaucoup, l'erreur peut-être des chances, c'est de ne pas l'avoir aligné après, en demi-finale. Voilà, assez. Ouais. Parce qu'il était capable de différences incroyables. C'est un joueur, comme Nabil aime à le répéter, c'est un joueur frisson, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des choses que peu de joueurs font. Et en plus, il a un côté, moi je me souviens quand je le voyais à Lyon, pour moi c'était un peu un funambule, parce que vous ne savez jamais s'il va tomber ou pas tomber. Il est toujours un peu en équilibre, déséquilibre dans ses dribbles, dans ses éliminations. Et finalement, il retombe toujours sur ses pattes. Et maintenant, il gagne ce côté un peu efficacité, un peu clinique, prise de temps, prise d'espace devant le but, et puis frapper, comme si rien n'était.
Il va falloir enchaîner la spéciale Thierry Henry quand même. Oui. Celle qui consiste à arriver à la gauche de la surface et enrouler. Celle-là, il la maîtrise de mieux. Et là, bon, c'était un pointu contre.
Mais on parle d'un joueur qui débute sa carrière. C'est ça, attention, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il. Il est devenu titulaire à Lyon il y a un an et demi.
Ouais, et il a 22 ans dans une semaine.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est encore un très jeune joueur.
Ah, lui, c'est vraiment
incroyable. Il fait partie des têtes d'affiche, à n'en pas douter, du Paris Saint-Germain. Messieurs, qu'est-ce qui manque finalement à ce Paris Saint-Germain?
J'ai hâte d'être dimanche et de voir Lille PSG. Déjà, je pense que ça serait une équipe un peu plus consistante. Oui. De voir une adversité à l'extérieur. Déjà, il me manque des repères de parce que Le Havre et Montpellier a pas recruté. Donc on peut se dire, bon, bah, ils sont déjà rompus et tout. Bon, c'était pas.
Le Havre, c'était même pas une équipe du PSG. C'était d'ailleurs pas une équipe du Havre parce qu'ils les ont mis en difficulté sur certains contres, d'ailleurs, très étonnamment. Et puis les coups de pied arrêtés restent toujours la faiblesse du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais c'était un PSG bis. Faut pas l'oublier. D'ailleurs, quand ils ont fait rentrer les stars, c'est comme ça qu'ils ont gagné le match.
Quand Barcola est rentré, quand Ousmane Dembélé est rentré. Ce qui manque, c'est de l'adversité. Ce qui manque, c'est des coups durs. Bon, là, ils ont perdu Ramos, c'est quand même un coup dur. Mais si vous. S'il y a un autre blessé, voilà.
Le poste de buteur, par exemple, pas besoin de recrues, selon vous, Dominique?
Quand vous êtes à 10 buts en 2 matchs et que tout le monde prend ses responsabilités, entre guillemets, moi, celui qui, pour l'instant, continue à rester sur ses standards de la saison passée, c'est Randal Kolo Muani. Je trouve que techniquement, il n'arrive pas.
C'est un souci, c'est pas
grave de ne pas arriver au PSG. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais je pense qu'il n'est pas fait pour ce club, il n'est pas fait pour ce club, il n'est pas fait pour cet entraîneur, il n'est pas fait pour cette équipe-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne réussira pas ailleurs. Hein, je ne le condamne pas. Mais je pense que la marche est trop haute pour lui. Mais sinon, à part lui, je vois un Asensio très bien. Je vois Ousmane Dembélé.
Ça va être un peu limite, je trouve, quand même.
Ouais.
Il manque quand même. Un élément offensif.
Oui, ça manque un peu de puissance.
Osimhen était parfait.
Osimhen, ça
mais
fait changer
pas vraiment
même.
Parfait dans le style, Enrique. Parce que tout est là. C'est qu'il faut aussi que votre joueur s'adapte à ce que vous voulez. Effectivement, Osimhen, il n'a pas tellement le style, Enrique.
Ouais,
Osimhen,
c'est pressing,
une pointe. C'est un
type mais au niveau intensité physique, contre-pressing et tout, Osimhen, c'est un phénomène.
Ah, mais il est,
donc si
il
tu
est
veux. Moi, je veux bien que ça ne soit pas l'attaquant idéal.
Oui, mais son idée, mais à Enrique, c'est d'avoir des joueurs de foot qui, à la rigueur, sont attaquants ou milieu de terrain.
Guardiola,
c'est la même chose.
Guardiola a fait avec Haaland. C'était pas son style.
Mais je suis tout à fait d'accord.
Et Osimhen, ça correspond au même, même truc.
Ouais. Oh, Guardiola, il a tout fait
moi,
sa carrière.
Si vraiment il est au rabais, là, si vraiment au sol, ça s'appelle une opportunité de marché. Ah, un joueur comme ça, c'est un phénomène.
Il reste deux jours et demi.
Ah, bah moi, si tu me dis que c'est 65 millions d'euros, c'est pas très grave. Parce que Manchester United, ils ont acheté les 10 euros 60.
Moi, je leur donne Colomoigny, là. Je leur dis, tu vois, Colomoigny, là.
Et puis, c'est un avion.
Victor, fais-moi venir Victor.
Là, puis regarde les matchs, ils ont vu Colombo.
Et puis c'est un avion, hein. C'est-à-dire qu'il va dans les airs, il vous met des buts de la tête, messieurs, il y a une puissance physique.
Il joue plutôt au sol, le PSG. Donc,
c'est pour ça que je disais que ça rentre pas.
Mais sur un point classement rapidement, donc le PSG leader de Ligue 1, 6 points en 2 matchs avec la différence de but. Monaco aussi est plutôt bien parti. Je voulais qu'on prenne quelques minutes, messieurs, pour parler de l'Olympique de Marseille, qui est aussi une des attractions de cette Ligue 1. Alors, eux, ils n'ont pas gagné ce week-end. Un match nul, plutôt spectaculaire, au Vélodrome face au Stade de Reims. Un match nul, 2 buts partout, du spectacle, comme je disais en préambule. Donc, beaucoup de bonnes choses offensives, enfin, quoique, et des mauvaises choses défensives, d'où le 2 partout. Alors, avant d'écouter votre avis, messieurs, on va écouter le défenseur de l'Olympique de Marseille, Quentin Marin.
Je ne suis pas certain que ce soit plus intéressant.
Qui essaye, lui, d'analyser, bah, c'est gentil, qui essaye, lui, d'analyser la performance de l'Olympique de Marseille.
Et on est déçu de ne pas avoir la victoire ici à domicile, puisque ce public ne nous a pas lâchés. On les remercie, on leur demande de coacher comme ça. Et après, c'est à nous de faire le travail pour ne pas avoir ce résultat à domicile. On prend 2 buts, donc on a manqué l'attention. Et ça, c'est surtout point négatif à revenir. Et la prochaine fois, on ne doit pas faire ça, parce qu'on menait à la mi-temps. On aurait pu mener 3-0 à la première mi-temps. On rate des occasions, on est solide. Donc c'est le football, c'est comme ça, mais c'est les erreurs qu'on doit retenir et pas les refaire la prochaine fois.
Voilà, des erreurs à ne pas commettre pour les prochains matchs. Mais ce qu'on n'est pas finalement dans ce que fait Roberto De Zerbi un petit peu partout là où il passe. C'est un peu foufou, à la fois offensivement et à la fois défensivement.
Ouais, mais je pense que ça va pas lui plaire parce que déjà à Brest, il avait déjà pu constater ça. Alors le 5-1, tout le monde était dithyrambique en se disant ouais, et enfin, pareil, on sort d'une saison où l'OM a Gattuso avec Marcelino, n'a pas forcément régalé, pas de Coupe d'Europe, 8e. Terrible constat pour l'OM, quand même, un club phare de championnat de France. Donc, en plus, De Zerbi a une cote énorme sur le marché européen, on s'attend à quelque chose. Mais le 5-1 a masqué les faiblesses défensives de Marseille. Et là, Reims les a exploitées. Vous ajoutez à ça le mauvais match d'Eli Wahi, qui, pour sa première au Vélodrome, avait peut-être un peu de trac, à trois occasions franches. Il les rate à 1-0. Donc, je pense que ça aurait complètement
sifflé à sa sortie.
Oui, ça aurait changé. Bah, c'est un peu dur, mais bon, c'est aussi à cause de lui qu'il y a ce 2 partout. Parce que je pense, encore une fois, que si l'OM est à l'abri.
Oui. C'est raté, coûte la victoire à l'Olympique de Marseille, clairement, quoi. Mais oui, défensivement, il va falloir évidemment s'améliorer. C'était pas le même type de match, parce que face à Brest, ils étaient plus en transition, parce que Brest jouait plus haut. Et donc, notamment Greenwood qui a pris beaucoup d'espace. Là, ils ont eu affaire à un bloc bas de la part de Reims. Reims qui a montré des belles choses. On parlera tout à l'heure très probablement du but de l'Ivoirien.
Bien sûr.
Yaya Fofana, magnifique, qui a été un véritable coup de muarto. Dimanche soir.
Bravo.
Il a transformé ses adversaires en serpillères. Balerdi et Murillo, qu'il a renvoyé à Panama. C'est exceptionnel le but qu'il a mis, mais enfin bref. Et puis pour Marseille, il va falloir, face à un entraîneur qui vient d'arriver, on voit ce qui, à peu près ce qu'il veut faire. Il va falloir aussi laisser un petit peu de temps. Le problème, c'est que si tu veux matcher le Paris Saint-Germain,
il faut laisser du temps.
Si tu veux matcher le Paris Saint-Germain, ou du moins aller le plus loin possible. À coller le PSG, pour au moins qu'on ait un minimum de championnat, hein, c'est-à-dire pas le PSG et les autres, quoi, parce qu'on en a marre, pour dire clairement les choses. Il ne faut pas laisser trop de points sur le côté, et notamment quand vous êtes largement dominateur comme en première mi-temps.
Hervé, je fais avancer le débat. L'OM qui est plutôt excellent à l'extérieur, et c'est plus compliqué à domicile. C'était le cas l'année dernière, ça semble se confirmer cette saison. Il y a beaucoup trop de pression au Vélodrome pour les joueurs marseillais ?
Bah visiblement, ils ont du mal à assumer ce statut d'équipe attendue à domicile. Hein. Quand vous avez 55 000, ça fait du bruit, bah, y a une pression supplémentaire. Il y a des joueurs qui ne l'assument pas complètement. On l'a vu, on parlait de Wahi, même si le choix de Wahi était aussi d'interrogation pour Marseille.
Ce n'est pas leur premier choix déjà, ouais. Toujours moins rappelé.
Oui.
Parce qu'ils étaient sur Nketiah et le joueur sud-coréen de Wolverhampton. Mais Nketiah, il a signé à Crystal Palace.
Palace, ouais,
c'est pour avoir les bons joueurs, en fait, il faut payer un moment.
Après, c'est la première année, c'est 35 millions d'euros.
Et Eli Wahi, dans un monde normal, il arrive comme second attaquant ou un bis derrière un attaquant confirmé qui a 5 ou 6 saisons à plus de 20 buts dans un grand championnat.
Alors, il a marqué déjà beaucoup de buts à son grand âge, à son jeune âge.
C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts.
Il a fait une saison à Montpellier où il a formé.
Mais l'année dernière, le problème, c'est qu'il était un peu en difficulté à Lens. Il avait été sifflé aussi par le public, mais les sifflets du Vélodrome, c'est encore un peu plus violent que les sifflets de Bollaert. Alors, il a beau dire,
ils sont moins patients, les supporters marseillais.
Voilà, alors, ils ont tous connu ça. Hein. Mais Aubameyang, 35 ans, les sifflets, vous savez, ça lui glisse dessus. Et puis après, il a montré qui il était. Aujourd'hui, oui, ça va être plus compliqué. Mais ça, c'est important parce que la pointe sera vachement importante dans le jeu pratiqué hein, par le Marseille, par cet OM-là.
J'ai cru qu'il était bon Zerbi à Brest, le match d'avant.
Hein?
Au match d'avant, à Brest, il avait été bon, il avait ouvert un peu des...
Moi, non, pas aimé très bon.
Non, il a tellement été pas terrible qu'il a essayé de gratter un pénalty à Greenwood.
Il a marqué,
je l'ai pas trouvé très bon.
Ils sont durs.
Je le trouve dur avec
lui. Nous, on n'est pas là pour faire de cadeaux. Ce qui était bon, c'était Harit et Greenwood.
Non, je l'ai pas trouvé...
Même lui, Cédric avait été bon.
Ouais, je l'ai pas trouvé très très bon non plus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui a filé la balle, je pense effectivement pour le penalty, pour dire ça va te redonner de la confiance.
Pour Colomoigny également au premier match du
Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça, c'est un peu le geste de pote, quoi, puisque comme c'est un 5-1, tout le monde est beau, tout le monde est content. Maintenant, le problème du système de Zerbi, c'est que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Tactiquement, faut être très très juste, et faut pas se faire prendre non plus sur des éliminations, comme on l'a vu avec Fofana, c'est-à-dire qu'à un moment quand il y a quelqu'un qui crée des déséquilibres, tout votre bloc un peu se distord.
Donc, il y a un peu de travail.
On va leur
laisser
du temps. Laissons du travail. Et puis,
c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Laissons du temps à nos équipes.
Mais si De Zerbi n'a pas de crédit, alors on fait
Franchement, le métier le plus compliqué dans le football, c'est l'entraîneur. Hein. Entre l'impatience des actionnaires et l'impatience du public, des journalistes, tout ça, c'est vraiment.
Et nous, derrière, qui en remettons une couche.
C'est vraiment compliqué.
On va arrêter l'émission alors. On arrête.
D'autant plus que tu peux faire très bien ton boulot, mais c'est quand même pas De Zerbi qui a raté trois fois le but.
Et à un moment,
messieurs,
c'est les joueurs qui sont sur le terrain.
On va entamer notre dernière partie d'émission.
Ils sont tellement intéressants, ces deux.
Messieurs, il reste un club français qu'on n'a pas encore évoqué. C'est Lille qui a un match de disputer la phase de poule de la Ligue des Champions. Musical signé magnifique. Mathieu De Gueldre, qu'on magnifique. Remercie,
bravo,
qui
habille
toutes les émissions de Radio Foot International. Les Dogues Lillois, messieurs, qui ne doivent pas perdre leur mordant s'ils veulent espérer poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. On rappelle leur succès au match aller, c'était à Valenciennes face au Slavia Prague, 2-0. Il faut terminer le travail maintenant en République tchèque. Ce ne sera pas une mince affaire. Hein. Le Slavia Prague, c'est une équipe plutôt rompue aux joutes européennes. Avant de débattre, messieurs, on va écouter l'entraîneur lillois Bruno Genesio, qui est revenu à la fois sur le succès contre Angers en Ligue 1, succès 2-0, et qui entrevoit déjà ce match retour face au Slavia Prague.
Deux visages différents. Là, une première mi-temps très satisfaisante avec beaucoup d'occasions de but. Puis une deuxième mi-temps où l'entame est plutôt bonne et puis petit à petit on se met en danger. On a concédé trop d'occasions et on n'a pas su reproduire les mêmes situations qu'en première mi-temps. C'est le match de mercredi auquel on pense parce qu'on a à l'aller fait ce qu'il fallait pour être devant à la mi-temps du match. Donc maintenant il faudra confirmer mercredi là-bas.
C'est vrai que Lille est dans une plutôt bonne posture. Finalement, depuis l'arrivée de monsieur Bruno Genesio dans le nord de la France. Monsieur, rapidement, un mot sur Bruno Genesio qui fait un excellent travail. Hervé, pour l'instant,
on disait qu'il fallait pas, il fallait pas être impatient.
On lui laisse du temps.
On va pas non plus après deux matchs et aller un peu plus quatre matchs expliquer que tout est parfait. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est mis dans les habits lillois de manière un petit peu parfaite, hein, quasiment, hein, parce que on a la continuité de Fonseca avec un autre style de jeu, puisqu'il a décidé de jouer à 3 derrière. Alors, Il n'a pas le même effectif non plus, parce que je pense qu'il est un peu plus faible que l'année dernière, parce que c'est vrai qu'il a perdu Lenny Yoro. Il a perdu un joueur qui était clé dans cette équipe, qui était Nabil Bentaleb. Là, en plus, vous avez Gomez sur le flanc avec son histoire de commotion cérébrale qu'il a subie à Reims. Mais en tout cas, pour l'instant, on a l'impression que c'est l'homme de la situation. En tout cas, c'est l'homme qu'on attendait à ce poste-là, parce que l'équipe joue bien. Lui, c'est quelqu'un de très, qui a un système de jeu assez offensif, qui plaît beaucoup aussi aux supporters. Et puis, là, il ose taper sur du poing sur la table de temps en temps. Il n'avait pas aimé notamment certains entraînements de début de saison, où il trouvait que c'était un peu trop rigolard en début d'entraînement. Là, il avait tapé un peu du poing sur la table. Mais il adore les joueurs qu'il a. Ça se passe bien. Il va falloir peut-être un renfort supplémentaire, ne serait pas trop, à mon avis, notamment en attaque, pour la suite des compétitions.
Il faut déjà être sûr que Jonathan David reste vendredi soir à minuit. Je vais surveiller ça parce que...
Il restera. C'est le gros dossier.
On est sûr parce que moi, je me méfie toujours des...
Non, mais on est sûr, mais les temps... Non, mais les temps a prévenu, de toute façon, c'est qu'il n'y aura pas de départ de David s'il n'a pas de remplaçant. Simplement, le problème, c'est que David est en fin de contrat, fin de saison. Donc, lui, il ne re-signera pas et il partira peut-être libre. Mais de toute façon,
c'est pas grave.
Mais c'est pas grave. Il faut le garder.
Il faut le garder. Mais sinon, cela va le faire, comme on dit, évidemment, Sofiane, parce qu'ils ont quand même ils ont paru supérieurs à Prague au match aller. Donc, ça serait une énorme surprise et une vraie, vraie grosse déception pour le football français. Si ça tournait mal...
Malgré l'historique des clubs français en barrage, on le rappelle que les clubs français sont pas bien indiqués en barrage.
Ils ont fait les choses bien, ils ont bien repris. Il a refusé de libérer des joueurs pour les JO, Olivier Létang, en disant « mais moi je pense d'abord à tout ce qui va se passer cet été ». Au début, ça n'a pas été compris. Je pense que maintenant, les gens vont... Vu qu'en plus, la France a décroché une médaille d'argent. Tout le monde est content, en fait. Ouais. Lille est quasiment aux portes d'une qualification. Et la France a pu faire sans les Lillois qu'il voulait. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Et Genesio, c'est quand même... moi, je n'ai jamais compris ce qui lui était arrivé à Lyon, cette haine contre lui.
Il y a un Genesio bashing, c'est vrai,
qui avait été entretenu par Hervé Penaud à l'époque, je m'en souviens.
Non.
Un petit peu, oui. Ah non, mais moi, j'aime bien être dur avec les entraîneurs.
C'était gratuit.
Non, mais ses réseaux sociaux, ses supporters qui ne voulaient plus de lui. Je n'ai jamais compris. Puis de toute façon, le club, après lui, a montré que ce n'était pas lui le problème.
Oui. L'avantage de deux buts, Nabil, à l'aller, ça va suffire ? Bon, ça va suffire. Bah, parler comme ça, c'est...
Quand on regarde comme ça de l'extérieur, on a l'impression déjà qu'ils avaient fait un peu le plus dur en sortant Fenerbahçe, qui me semblait sensiblement plus forte que cette équipe du Slavia, qui est une bonne équipe, qui est athlétique. Il faudra faire attention sur coup de pied arrêté, notamment sur les corners. Ils ont pris deux buts refusés pour hors-jeu.
Sur la même phase de jeu, c'est de la tête.
Sur une main.
Très limite, ouais.
Très limite. Équipe qui n'est pas là par hasard. Vous avez raison de rappeler le passé et le passif des clubs français, les grosses déceptions qu'on a eues. Pour moi, c'est décisif pour le football français, parce que je pense que Brest va faire une campagne très compliquée. Il faut absolument que Lille, même si je suis assez d'accord avec Hervé, il semble avoir quand même perdu 2-3 joueurs clés à l'intersaison, même si Lille semble moins bien outillé que la saison dernière, mais il y a quand même des automatismes. Il y a quand même un état d'esprit. On n'a pas parlé d'un joueur qu'ils ont gardé qui est important, qui est un peu plus. Qui est lié, mais qui rentre un peu plus dans le jeu, dans le 3-4-3, c'est Zegrova, quand même, qui avait aussi des velléités de départ. Oui, ce serait une grosse déception si là, il ne se qualifiait pas. Maintenant, il va falloir surveiller la fin du mercato. Est-ce que Bayo va rester ou pas ? On parlait de Jonathan David.
Là, pour le coup, Bayo, c'est une interrogation. Ouais. C'est que Bayo, il y a peu de possibilités. Il y a possibilité qu'il parte.
Il pourrait partir en prêt.
Là, il pourrait partir en prêt. Et là, dans ces cas-là, on pourra enclencher, par exemple, Opcio André Ayou. C'est une possibilité. Ou d'autres, d'ailleurs.
Ils ont pris le Marocain qui est pas mal, là. C'est où ?
Sarraoui. Qui a disputé un match avec la Norvège.
Il n'est pas Marocain. Hein.
Il est plutôt des Norvégiens.
Il n'est pas encore joué pour le Maroc.
La fédération marocaine sur le
terrain. T'inquiète pas, ils vont récupérer.
C'est possible.
Non, mais en tout cas, au-delà de savoir quelle est sa nationalité sportive, je trouvais sur sa première touche, sa faculté d'élimination, ça, c'est une recrue, je trouve, intelligente. Parce qu'ils avaient perdu un peu dans le même registre sur l'autre côté. Alors, pour moi, c'est une de mes plus grosses déceptions, c'est Ounas, l'international algérien qui n'a pas été au niveau d'exigence demandé, qu'un joueur qui a d'énormes qualités.
Ah oui, il a une qualité d'élimination.
Et puis,
tu as
raison, il faudra surveiller. Il passe en commission, parce que je me suis renseigné un petit peu sur son cas.
Tu as bossé, toi.
Ça m'arrive des fois.
C'est la première fois. Hein.
Ouais, le double pivot, tu as raison. Bentaleb, André était fantastique la saison dernière. C'est probablement quasiment le meilleur de Ligue 1. Oui. Bentaleb, malheureusement, il a un problème cardiaque, un accident cardiaque à l'entrée de l'été. Je sais qu'il, de ce qu'on m'a dit, il a vu le même cardiologue que Eriksen, le Danois, qui avait eu le souci lors de l'Euro. Maintenant, il doit passer en commission médicale. Est-ce qu'on va lui donner l'autorisation de repartir ou pas ? C'est la vraie question. Mais il y a des joueurs qui ont subi
Ça paraît quand même compliqué.
En France, c'est compliqué. En revanche, à l'étranger, parce qu'en France, je crois que c'est les médecins de club qui sont responsables. Et donc là, il y a une prise de risque pour un médecin de club qui est compliquée. Par exemple, en Belgique, on voit un panel de gens, ils donnent leur avis et puis après, c'est terminé.
Après, c'est le joueur qui est responsable de sa vie.
Quoi. Oui, c'est le club de son enfance.
C'est chez lui, quoi, en fait.
C'est vrai qu'en France, ça paraît compliqué. Je reviens juste, messieurs, sur les barrages. J'ai une double confrontation qui me revient en tête, celle de Monaco face au Chat. De Roberto De Zerbi, d'ailleurs.
Ils avaient une malchance avec un but à l'IA.
Mais Monaco était supérieur à cette équipe et finalement a perdu.
Ouais, mais faut vraiment... Là, c'était la poisse.
Est-ce que la confiance que le club lillois et que les analystes du football français n'est pas peut-être un petit peu trop haute?
Non, mais c'est parce que 2-0, ça paraît une marge. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez deux buts d'avance, ça paraît pas mal.
Mais Slavia n'a pas joué ce week-end, d'ailleurs, il faut le rappeler.
Parce qu'ils ont la possibilité en République tchèque pour un club de décaler une date, s'ils veulent, durant l'année, en fonction des matchs. Et là, effectivement, ils ont choisi cette date-là, ce qui n'était pas bête de leur part, parce qu'ils vont arriver quand même motivés. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une ultra-démunition lilloise, mais effectivement, il y a deux buts refusés. Et sur la fin de match, ça a été vraiment un peu un Lille en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont concédé pas mal de coups francs. Et là, du côté des coups francs, ils ont quand même un type, alors qui était sorti sur la fin de match, mais qui était là au début, qui mesure 2 mètres devant.
Ah oui,
et il faut y aller au combat. Donc vous prenez un but assez vite, ou même pas assez vite d'ailleurs, même si la 60e minute, oui, avec un public qui pousse derrière.
Il faudra marquer.
Voilà.
Il faudra marquer.
Et c'est pas une équipe
qui marque beaucoup plus. Vous allez jouer un peu plus bas. Vous allez pouvoir aussi faire gicler un peu les joueurs de côté.
Gicler, d'accord.
Oui, quand tu veux.
Faire partir.
Il y a plein de métiers, on parle de ça.
Donc voilà, un Zegrova, par exemple, avec de l'espace lancé, c'est comme Greenwood.
Qui était suspendu en championnat sur les deux premières journées. Et qui paraît être l'un des joueurs les plus frais.
Il y en a un qui est pas mal, il a redescendu à la place de Ben Taleb, il l'a mis avec André. C'est Haraldsson.
Je voulais vous demander, vous, un peu vos coups de cœur pour l'instant de cet effectif lillois qu'on va sûrement revoir.
Moi, c'est Sarraoui, là, que j'ai aimé sur ce qu'il m'a montré.
Mais qui n'est pas un titulaire
indiscutable. Il sera pas titulaire.
Ses entrées.
Bah, il a du talent. Quoi.
Il y a Haraldsson, c'est vrai, on pense à son replacement.
Haraldsson, c'est intéressant parce que le replacement, l'avoir mis derrière avec l'ouverture du jeu, parce qu'il est beaucoup plus fort quand il a le jeu devant lui et puis quand il peut partir de loin, et il a une activité absolument invraisemblable. Il court, je ne sais pas combien de kilomètres par match, j'aimerais bien me renseigner sur ses stats d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça a été un des hommes clés quand même de ce
saison. Je suis content de revoir Thomas Meunier.
Absolument. Angers. C'est vrai. On en parle moins, mais Thomas Meunier fait aussi.
Non, mais les temps, il est bon pour recruter. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Pep Genesio d'avoir enfin donné la solution tactique à l'équipe d'Algérie à distance, puisque Aïssa Mandi, qui vient d'arriver, ne peut plus jouer à 4 à 2 derrière. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont fait aussi un système à 3.
Ils l'ont pas fait pour Aïssa Mandi.
Je pense que vaut mieux pas qu'il soit.
Mais que Mandi rentre dedans, oui, mais ils l'ont pas fait pour lui parce qu'il l'avait fait avant qu'il arrive.
Mais Mandi, ça rentre parfaitement dedans.
Oui.
Mais tu.
Et puis Meunier aussi. Ça permet à Meunier d'être un peu aidé.
Oui, il a un rôle de défenseur central côté, à droite.
Meunier pourrait jouer aussi à 3 derrière.
Parce que Diakité fait un très bon début de saison aussi. Et puis il y a quand même quelqu'un qui est toujours présent, c'est Chevalier.
Et Alessandro, il va peut-être partir. J'ai vu qu'il était en discussion avec Bologne.
Oui, alors ça m'étonnerait aussi. Peut-être, c'est possible.
Monsieur Penaud a des
infos. Il y avait 15 millions qui allaient tomber.
Oui, mais là, le problème, ils ont pris 60 millions.
Il a peut-être déjà son remplaçant pour 3-4 millions derrière.
Pas sûr.
Après, là, vous avez peut-être une très grande compétition à jouer. Les risques.
Oui, non, là je pense qu'Olivier Létan, il ne va pas faire. Il va pas
récupérer l'argent.
Non, là, ils ont quasiment rien dépensé.
Méfie-toi.
C'est-à-dire qu'ils ont récupéré 60 millions d'euros sur Euro, ce qui paraît invraisemblable.
C'est déjà blessé avec Manchester.
Sans bonus.
Oui, sur les bonus qui peuvent avoir 5 millions de plus, ou c'est 63 plus 5. Et là, ils ont acheté quasiment pour rien. Mandi était libre. Meunier était libre. Muko était à 5 millions. Ouais. Et Sarraoui, ça doit être 8. 8, 7 ouais. ou 8. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils ont déjà du blé. Et moi, j'en ai parlé avec Olivier Létan. Ouais. Et eux, ils ont déjà anticipé de toute façon le remboursement de CVC. Honnêtement, le club, pour le coup, on connaît Olivier Létan.
C'est bien
et d'ailleurs, certains demandaient qu'on dépense un peu plus d'argent.
Ce qu'il faut mieux, parce que la Ligue 1, ça annonce des
rencontres. En tout cas, on espère, messieurs, la qualification de Lille pour la Ligue des Champions. Bon, on va devoir s'arrêter.
On n'a rien contre Sparta.
C'est passé
très vite. Mais j'en avais assez, Sofiane, parce qu'on m'a dit que Sofiane n'avait marre.
Pas mal à les placer à quelques
secondes. Et un mot sur Diouf, il y a un Sénégalais qui est très bon au
Exactement, merci à Pierre Guérin de m'avoir aidé à préparer l'émission. On salue Mathieu De Gueld. Bonne soirée à tous, à demain, ciao ciao.